cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Eh oui, eh oui. Eh oui, le temps passe. Mal.
Il n'a pas de place.
Bah, il y a trop de gens. Ou trop de quoi?
Qu'est-ce qui l'empêche de passer?
Eh ben, tu sais, moi, je connais une rue hors du temps. C'est Raymond Queneau qui nous l'a fait découvrir. Elle existe, elle est près de la gare d'Austerlitz. C'est une rue unique au monde. Elle s'appelle la rue Watt.
Lorsque j'y ai été pour la première fois, c'était en février, mais il ne faisait pas froid. Des clochards somnolaient sur des grilles fumantes et des moulins tournaient dans la nuit murmurante. J'étais avec Raymond qui m'a dit « Attention, il faut que tu constates qu'il n'y a rien comme la rue Watt, la rue Watt. »
Bonjour Magali Noël.
Mais bonjour.
Alors le label Dreyfus édite un double CD intitulé « Regard sur Vian », en fait des enregistrements de 89 je crois, qui, bon, comme son nom l'indique, sont axés autour de Boris Vian, chanteur, écrivain, parolier, enfin une sorte d'ovni on va dire un peu du XXe siècle, dont on va célébrer le 23 juin prochain, le 50e anniversaire de la disparition. Alors avant de parler de lui, de parler de ce projet, on va parler un petit peu de vous. Alors, le nom de Vian, certes, est raccroché au vôtre, mais des noms, on va dire, prestigieux, il y en a eu beaucoup, beaucoup dans le cinéma, notamment. Alors, on citait évidemment Fellini. Il y a eu Jules Dassin, Renoir, enfin, etc. C'est une sorte de...
René Clair.
René Clair, voilà. C'est assez impressionnant. Costa Gavras, dans la chanson, évidemment, il y a Jacques Canetti aussi, etc. Alors, je crois que vous avez commencé la chanson au Bœuf sur le Toit. Vous aviez 15-16 ans, c'est ça?
Ah oui, tout à fait. J'ai commencé avec un garçon que j'aimais beaucoup qui s'appelait Marc Dolnitz. Et Marc avait la charge de faire un spectacle. Et on a fait un spectacle 1930 à peu près. Alors, où je chantais des parties de Fifi. Oui, nous sommes les petits modèles à notre atelier. Hein? Et puis j'arrivais, alors il m'avait déguisée en Mae West. Parce que j'étais un peu ronde. Alors à cette époque-là, j'étais très jeune, toute blond, avec bien ronde, bien potelée. Et je chantais des chansons et je chantais aussi. You can bring Pearl, she's a very nice girl, but don't bring Lulu. You can bring Rosie, turn up nose, but don't bring Lulu, etc. Et on chantait vraiment des choses et c'était toujours bourré. Il y avait Cocteau qui venait, il y avait Marais, il y avait plein de gens. Il n'y avait pas que, hein, il y avait énormément de gens qui venaient nous voir. Et ça s'appelait L'œil sous la cloche. Alors, on avait les chapeaux cloches, on avait... Oui, dans 1925, en fait. Hein, c'était plutôt 1925. Oui. Dans les bouges, la nuit de mon Parnasse à Grenelle, le désir me conduit vers des amours fidèles. Non, mais ça a été charmant. Moi, ça a été une époque merveilleuse, parce qu'on riait beaucoup. Et que le public riait avec nous, et c'était formidable.
Quand vous n'aviez pas donc 20 ans à cette époque-là, qu'est-ce que la chanson, c'est venu comment? C'est-à-dire que vous chantiez, c'est une passion. C'était comment on arrive à là? Est-ce que c'était au début juste un hobby comme ça? Qu'est-ce que vous aviez des envies? Vous projetiez comment ça?
Moi, j'ai jamais rien projeté, mais vous savez, je vais vous faire rire. On va se raconter des blagues. Mais mon papa, que j'adorais, que j'ai perdu malheureusement très vite. Mon papa, quand j'avais 5-6 ans, il me mettait sur ses genoux et puis il me disait. « Allez, ma petite chérie, chante-moi couché dans le foin. » Et moi, en notre temps, j'en ai couffé dans le foin avec le soleil pour témoin. C'est marrant. Mais j'ai toujours chanté, vous savez, j'ai toujours chanté. Après, quand je suis devenue un petit peu plus grande, vers 14 ans, 15 ans, j'ai fait partie des chœurs de l'oratoire du Louvre. Je ne suis pas protestante, mais ils avaient un chœur merveilleux, dirigé par un certain Horace Hornung, qui était un très, très bon chef de chœur. Et j'ai chanté avec eux, c'est maman qui m'emmenait. Comme j'avais une jolie petite voix d'enfant, Horace me faisait chanter des solos. On a fait une tournée, on a été en Belgique, on a été en Hollande avec les chœurs de l'Oratoire du Louvre. Voilà, maman était musicienne, hein, maman était violoniste. Moi, j'ai fait 10 ans de violon. Et puis là, il a fallu au bout de 10 ans que je choisisse. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue le violon, je ne fais que ça? Ou est-ce que... Mais j'aimais trop la comédie, j'aimais trop le théâtre. Et voilà, c'est comme ça que toutes les choses sont venues, vous savez.
Est-ce que c'était lié aussi parfois, parce que vous avez dit, je ne me suis jamais vraiment projeté, c'était aussi parfois lié au hasard, aux rencontres, à ce genre de choses?
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai eu une carrière vraiment enchantée. Parce que ça a été effectivement dû au hasard, aux rencontres. Écoutez, regardez, j'étais dans une pension où maman avait déjà été élevée, à la Tour, rue de la Tour, à Passy, que j'ai trouvé merveilleux, mais on avait des uniformes, tout, voilà. Et bon, j'étais pas toujours la première, mais j'étais toujours la première à avoir tous les rôles en fin d'année. Il y avait toujours des représentations, mais des choses jolies, intéressantes à jouer. Et on me demandait toujours de le faire. Et un jour, je prenais quand même des cours de danse. J'adorais la danse et mes parents me laissaient aller chez une grande danseuse qui s'appelait Janine Solane, mais qui dansait pieds nus. Ça se rapprochait un peu d'Isadora Duncan, mais pas vraiment complètement. Elle était beaucoup plus moderne. Bon, et là, un jour, j'ai vu un monsieur qui faisait une barre. Un monsieur qui avait pas du tout la tête ni le cœur, le corps d'un danseur. Et je me suis approchée de lui et je lui ai demandé, mais monsieur, Vous voulez faire de la danse ou qui êtes-vous? Il m'a dit, mais je m'appelle Jean-Marie Serrault et je fais plutôt du théâtre, vous voyez. Oh, j'ai dit, quelle chance vous avez, moi j'aimerais tellement faire du théâtre. Il m'a dit, mais il faut vous travailler un petit peu. Et c'est lui qui m'a présenté à une grande sociétaire de la comédie française qui s'appelait Catherine Fontenay, que j'ai été voir tous les jeudis, même quand j'étais à la Tour. Là, je dis, je prenais mon métro, machin, j'allais au Français, j'allais voir Catherine. Et puis, Jean-Marie a été désigné pour aller jouer une pièce classique pour les officiers français, tout de suite après la guerre, les officiers français qui étaient restés en Allemagne. Alors, ils avaient fait une troupe. Et quelle troupe ? Jean-Marie Serrault jouait Monsieur de Sautenville, Catherine Fontenay, Madame de Sautenville, Benoît Besson, Clitandre. Enfin, il n'y avait que des gens de théâtre, mais fantastique, mais il n'y avait pas... Et puis François Vibert de la comédie française qui faisait Georges Dandin, mais il n'y avait pas Claudine. Claudine, elle n'était pas choisie. Et c'est Catherine, mon professeur, Catherine Fontenay, qui a dit à Jean-Marie Serrault, mais pourquoi vous prenez pas Magali? Elle va être formidable dans Claudine. Et puis ils m'ont donné Claudine, mais maman ne voulait pas me laisser partir parce que j'étais très jeune. Alors Catherine Fontaine a été voir maman, lui a dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de votre fille, etc. Et effectivement, elle s'est très très bien occupée de moi pendant toute la tournée. Voilà comment j'ai commencé le théâtre. Je vous dis, toutes les choses se sont enchaînées. Après ça, on est rentrés. Je peux vous parler sans fin. On est rentrés.
Votre vie est un roman, comme on dit.
Est un roman à Paris. Et là, Jean-Marie Serrault a voulu que je joue une pièce d'Alfred Jarry qui s'appelait L'amour en visite. Alfred Jarry, le premier pataphysicien du monde, qui était devenu Boris Vian, l'équivalence des contraires. Alors l'équivalence des contraires, c'est une petite fille très jeune qui allait voir un monsieur et qui lui disait qu'elle était enceinte. Elle lui faisait croire qu'elle était enceinte. Donc c'est ça, ça a été formidable. Bon, puis alors j'ai joué.
Dans cette rencontre avec Vian, justement.
Alors voilà, je vais vous raconter. Alors là, Le Bœuf sur le Toit, Jean-Marie Serrault, il m'a même fait jouer du Brecht. Je peux même vous dire le premier couplet de, de L'Exception et la Règle. Im Tross der Räuberhauden ziehen die Gerichte. Ça, c'était du Brecht, hein, mais je jouais Mère Courage après, chez un copain à moi que j'aime beaucoup, qui avait le théâtre de Genève. Mais j'ai joué chez lui, Mère Courage de Brecht, et j'avais toute une délégation du Berliner qui était là pour voir comment je jouais, parce que j'étais un petit peu jeune au point de vue âge, et c'était bourré, on louait les marches, ça a été fantastique, c'est peut-être un de mes plus beaux souvenirs de théâtre, ça. Bon, il y a eu L'amour des quatre colonels, qui a été joué 100 mois, 500 fois, moi j'ai joué 200, puis j'ai arrêté, il y a eu... vous savez, c'est fou ce que j'ai pu faire, c'est fou. Quelquefois, je me dis, est-ce que c'est vraiment moi qui fais tout ça? C'est vrai.
Donc, cette rencontre avec Boris Vian, est-ce que vous
vous souvenez? Alors, la rencontre avec Boris Vian, ben voilà. Alors, je venais de tourner mon second film, là, on rentre dans le cinéma, avec Jules Dassin, qui s'appelait Du Rififi chez les hommes. Et j'ai chanté la chanson « Doué, bébère, d'entre avec Dan à mon histoire », etc. Je parle du Rififi. Et Boris a entendu ma voix. Et comme j'avais une voix très haute, très pointue, mais un peu voilée, il a beaucoup aimé ma voix. Alors, il a appelé M. Jacques Canetti, qui s'occupait des disques et qui connaissait très bien Boris. Et Jacques, un jour, est venu me voir en me disant « Écoutez, Magali, venez avec moi, je vais vous présenter Boris Vian. » Mais moi, j'étais encore très jeune à l'époque, là. Bon, Boris Vian, pour moi, je voyais un très gentil monsieur, mais je ne m'imaginais pas ce qu'il était, ce qu'il représentait. Et quand Boris m'a vu très gentil, il m'a dit « Est-ce que vous voulez bien que je vous écrive des chansons ?» J'ai dit oui, monsieur. Très bien. Voilà. Et puis, je me suis retrouvée dans une salle d'enregistrement de chansons. Et là, quand il m'a fait chanter « Fais-moi ma Johnny », j'ai vu, mais vraiment, je m'en rappellerai toute ma vie. Mais les rires qu'ils avaient dans la... Moi, j'étais dans la cabine, j'avais du mal à contenir moi. Mais lui, avec les autres, le pianiste, ils étaient tous là. Mais ils riaient comme des fous. À un moment donné, Boris est venu à côté de moi et il m'a aidé à faire finir la chanson. Voilà.
Alors, cette chanson, je crois, même, était interdite à l'époque, à la radio.
Complètement interdite. Alors, comme elle était interdite, que j'étais quand même têtue, c'est vrai que je l'avais chantée une fois devant le public. J'avais reçu plein de trucs sur la tête, des sifflets, des hurlements. Alors après, je l'ai rechantée parce que je suis une têtue, une acharnée quand j'aime les choses, et j'ai chanté je passe le couplet, fais-moi mal Johnny, 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 c'est censuré, bam, fais-moi mal Johnny, 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 eh ben oui, c'est censuré. Les gens, ils en étaient pour leur argent, mais je m'en fiche, j'ai fait ça pendant près d'un an.
Des difficultés avec ma santé, comme tout le monde. Des petits malheurs, un coup dur par heure, comme chacun. Je me plains pas souvent et je vais de l'avant comme tout le monde. Car j'ai découvert un truc du tonnerre, comme pas un. J'ai mis mon pyjama à l'ouvinette, toute la nuit c'est le cinéma, ma tête s'envole. Je suis Marlène, le beau Tarzan m'adore. Quand j'apparais, les hommes supplient encore, sont fous. Je suis ministre avec monocle, je suis statue, voyez mon socle. Je suis actrice, je joue Sophocle en toge. Je suis coureuse automobile, je parcours les déserts stériles. L'académie me trouve habile et loge. Au bord des toits, je me promène la lune. Il n'y a plus personne. J'ai froid.
Le succès de la chanson, ça, la polémique, etc., ça vous a... Parce que vous expliquez, vous venez de dire, au début, bon, Boris Vian, je ne me rendais pas trop compte qui c'était, etc.
Ah oui, non,
j'étais soudainement, c'était...
Ah oui, je l'ai connu. Il était comme un grand frère pour moi. Il était vraiment adorable, très accessible. J'étais quand même pas très bien grande, donc j'avais quelquefois des choses peut-être idiotes que je disais, sûrement. Il écoutait toujours, il souriait, il me répondait. Il était vraiment charmant, mais plus que charmant. Très... et en même temps aussi très protecteur vis-à-vis de moi, très protecteur. À un moment donné, quand j'avais fait le bœuf sur le toit, après j'ai fait un autre cabaret qui était beaucoup moins marrant, où je passais trois fois dans l'agneau, on me cachait dans la cave, parce que j'avais pas l'âge d'être dans un cabaret, alors j'avais ma loge dans le fond de la cave, et c'était un gars du milieu qui tenait le cabaret, je ne le citerai pas, parce qu'il a été très gentil avec moi et très protecteur aussi. La preuve, il me mettait à la cave. Je trouvais toujours un chocolat chaud en bas quand je descendais. Et je sortais à 4 heures du matin. Et bien, quelquefois, à 4 heures du matin, je trouvais Boris avec un ami ou deux à lui, des musiciens. Puis il me disait, ça a été ? Ben, Gali, oui. Ben, viens, allez, on va aller manger. Puis on allait manger ensemble dans un petit vin. Ben, il a toujours été... J'ai rien... Vraiment... Je vous dis, plein de tendresse et de gentillesse, voilà.
Comment vous voyez à l'époque, parce qu'il y avait un côté quand même un petit peu révolutionnaire, un ovni de son approche de la chanson, c'est-à-dire d'ailleurs, je crois que dans le CD, il y a quelques passages d'archives et notamment d'interviews, et il dit, je trouvais ce passage où il dit, voilà, du jazz, je suis venu à la chanson américaine, et de la chanson américaine à la chanson française. Donc il a eu une arrivée un peu sur, quand il a commencé à composer des chansons en français, un peu étrange, un peu atypique.
Mais vous savez, voilà, au fond, il était aussi un grand musicien. Et au début, il a écrit des articles dans Jazz Hot, qui était une et puis il a commencé la trompinette, comme il dit, qui n'était pas une vraie trompette d'ailleurs, qui était un bugle, à 17 ans. Et puis après, petit à petit, puis il a fini, bon, dans l'orchestre d'Abadi, ils ont fait plein de choses et tout. Et non, je comprends pas très bien.
Je veux dire son approche, en fait, son approche de la chanson à l'époque, dans cette période-là, qui était, c'est vrai que c'était des années où, en fait, la chanson française, j'allais dire, commençait à basculer, devenait vraiment moderne, arrivait vraiment avec des plumes, des styles qui n'avaient rien à voir avec la chanson d'autrefois, que ça soit réaliste, etc. Oui, c'était plus sous cet angle-là, vraiment. Oui. Il a apporté vraiment quelque chose de neuf, quoi.
Alors, je vais vous dire, il y a par exemple une des chansons que je ne peux pas vous chanter là, bien sûr, mais que je peux vous en dire un peu les paroles, qui s'appelle Terre-Lune, je trouve que c'est une des plus belles chansons qu'il a écrites. Il y en a deux, moi, qui sont dans mon cœur. Trois, parce qu'il m'en a écrite la dernière chanson avant qu'il parte. Pour un film que je tournais en Italie, qui s'appelait Arrivata alla Parigina. Bon. Alors, la chanson dont je vous parle, ça commençait comme ça. Quand j'en aurai assez d'entendre les enfants pleurer dans le noir, quand j'en aurai assez de voir les villes crouler sous les cendres, quand j'en aurai assez d'entendre et de voir... attends, je ne me rappelle plus. Crouler sous les sangs quand j'en essaie d'entendre. Bon, j'ai un trou là de mémoire parce que je parle tellement que je ne sais plus trop ce que je dis. Mais enfin, bref. Celle-là, déjà, il dit « À moi, la lune blonde. Terre lune, ce soir, j'ai mis mes ailes d'or dans le ciel comme un météore, je pars. » Et puis, il regarde la terre de la lune où les hommes font des bêtes et sont comme des bêtes, quelquefois, et agissent comme des bêtes. Et alors, il regarde qu'un jour, peut-être, la terre va exploser. C'est une chanson terrible, hein, mais une chanson fantastique. Et puis, il y en a une autre aussi qui me touche beaucoup, c'est quand il dit à tous les enfants qui sont partis, le sac au dos, par un brumeux matin d'avril, je voudrais faire une chanson. C'est ceux qui partent à la guerre. Hein. Il a écrit des choses tellement déchirantes et touchantes que les gens ont été très frappés par ça. Évidemment, c'était tout à fait le contraire des chansons qu'on chantait à ce moment-là. Mais ça, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont aidé à ce que les chansons de Boris Jacques Canetti, il a voulu inonder tout à fait le Paris des chansons de Boris.
Alors Canetti, justement, c'est une autre rencontre aussi dans la liste de votre roman, votre vie roman. Quel souvenir vous gardez de Canetti ?
Oh ben, un souvenir surtout, il avait des idées extraordinaires. Ça fait que grâce à lui, j'ai fait une tournée Vian avec Pierre Brasseur. Alors Pierre lisait les poèmes et moi je chantais les chansons. Il a toujours eu des idées complètement révolutionnaires, Canetti. On lui doit beaucoup.
Alors donc ce projet, donc ce disque qui sort, oui. Regard sur Vian, donc c'était quelle était l'origine en fait de ce projet, c'est-à-dire de rassembler des chansons, mais il y a également des documents, comment ce spectacle, mais comment vous êtes arrivé à cette idée en fait de ce spectacle,
mais parce que je trouve que moi il y a une chose qui me plaît tellement dans les chansons, il est tellement merveilleux écrivain et touchant et qui vous touche au cœur vraiment. Moi, je suis aussi comédienne. Je ne suis pas seulement chanteuse à gna gna gna. Et alors, je trouve que chaque chanson de Vian, c'est comme un petit acte à jouer. Et je fonce à fond, à fond, à fond. Et c'est ça qui a fait que, brusquement, je me suis dit, mais au fond, on va faire un spectacle. Un regard sur Vian qui était parti, on va faire quelque chose de bien. Et j'ai même pris ma fille dedans, qui faisait la petite souris de l'écume des jours. Elle était chou comme tout, je l'avais habillée toute en grise. Et elle chantait le bal des vampires. Papa est vampire, maman chauve-souris. C'était mignon, c'était adorable. Et les gens ont adoré ce spectacle. Voilà. Et j'avais avec moi, au piano, il y avait Hervé Sélin. J'avais une contrebasse. J'ai eu un autre pianiste merveilleux, un pianiste suisse aussi. Et puis, bon, de la guitare, contrebasse et batterie, quoi. J'avais des musiciens formidables.
Alors comme vous l'avez dit, je ne suis pas que chanteuse, effectivement. Vous avez toujours dans cette façon, toujours un peu, j'allais dire, de slalomer. Est-ce que vous, au fond de vous-même, il y a des frontières entre les arts, entre les médiums, c'est-à-dire entre le fait de jouer devant une caméra sur une scène de théâtre, de parler avec un metteur en scène, et à côté de cela, d'enregistrer, de se retrouver dans un studio d'enregistrement, de travailler avec un auteur de chansons comme Vian, etc. Est-ce que pour vous, tout ça, c'est la même chose, finalement ?
Moi, vous savez, j'oublie tout ce qui est autour de moi. Quand j'ai un beau texte, j'oublie tout. Il peut y avoir le déluge, la terre, le machin, si j'ai un micro et que j'ai quelque chose de beau à dire, là, j'oublie tout et j'y vais, je fonce. Voilà. Là, cet après-midi, je vous ai dit, on s'est retrouvés avec tous les anciens musiciens de Boris. Donc, il y a eu Michel Legrand, Goraguer. Ils étaient tous là. Et bon, au lieu de chanter une chanson, j'ai dit un poème que j'ai trouvé tellement beau et que j'aime énormément parce que c'est une joie de vivre. Parce qu'il avait aussi une grande joie de vivre, Boris. Il essayait de vivre le maximum, d'aller juste au maximum de ses possibilités, de son envie de vivre et de sa façon de vivre. Voilà. Alors, là, et ça s'appelle « Cueille la vie », cette chanson. Et c'est joli. Vous voulez que je vous le dise ?
Oui, s'il vous plaît.
« Cueille la vie comme une rose bleue et glisse-la dans ton livre doré, ton livre d'or ou d'or, tout ton passé et tous tes souvenirs heureux. Fais un bouquet contre le cafard, bouquet d'amour pour t'éclairer dans le noir, bouquet de fleurs, de rêves et de baisers, et de matin dans la rosée. Mais va, va, cueille, cueille une pomme vermeille, cueille ce plaisir sans pareil, cueille un grand morceau de soleil. »
On ne peut absolument rien lire sur votre figure. Ouais, c'est une figure sans légende. Et pourtant, la femme est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour remplacer l'homme quand on a la déveine de ne pas être pédéraste.
Oui, mais premièrement, il y a beaucoup de mérite à épouser une femme plus jeune que soi. Il y a beaucoup de mérite à épouser une femme. Il y a beaucoup de mérite à épouser. Il y a beaucoup de mérite. Oh. Sans compter les emmerdements. Deuxièmement, il y a beaucoup de mérite à épouser une femme plus vieille que soi.
Oh bon,
il y a beaucoup de mérite à épouser une femme. Il y a beaucoup de mérite à épouser. Il y a beaucoup de mérite. Oh. Sans compter les emmerdements. Troisièmement...
Oh, mais...
Il y a beaucoup d'emmerdements. Sans compter le mérite d'épouser une femme.
Les femmes compliquent la vie des hommes, mais pour obliger ceux-ci à la simplifier, oui, et entretenir en eux la flamme créatrice. Ah bien, attends. Les hommes, ramenez-vous, il y a une vente de service dans le quartier. Je coûte cher. Je fais pas les quartiers populaires. Non, je n'appelle pas n'importe quel frère. Je reviens à plus de 100 sacs. C'est comme ça. Je coûte cher. Je fais l'opéra à la Madeleine. Je suis fringuée comme une vraie reine. Et il faut voir mon Mac. J'ai des pavés en or pur sur le coin de mon trottoir. Pour que ça soit sorti, j'en ai plein la mâchoire. J'ai des culottes en vison que je vais faire pour l'hiver. Et
j'ai des bagues au doigt. Comme la mécom en a pas, je coûte cher. Y'en a plus d'un qu'en a souffert. Je suis pire qu'un tremblement de terre. On s'en relève pas, je coûte cher. En toute saison, c'est le boulevard, mon grand salon. Et j'y reçois le soir tous les amis qui passent me voir. On ne boit pas de porto, on ne mange pas des gâteaux, non. Mais quand vient le soir, tout le monde me dit que je sais recevoir. Il y a des raisons, il y a des raisons, il y a des raisons pour ça.
Alors donc, on a cité, vous avez dit pour vous, effectivement, vous retrouver comme ça avec des textes. C'est, est-ce que, en fait, c'est que ça soit un scénario, que ça soit un dialogue de cinéma, une pièce de théâtre, une chanson. Comment se passe, j'allais dire, l'appropriation, la transcription, la conjugaison de ces mots d'autrui par vous. C'est-à-dire que.
C'est ce que je vous dis. Moi, si ça me touche beaucoup, ça me touche vraiment intérieurement. Mais c'est ça l'acteur, en fait. Je redeviens complètement acteur avec les chansons de Boris. Je me dis pas. oui, nous sommes des petits modèles, c'est mignon, c'est adorable à chanter, mais ça me touche pas. Les chansons de Boris me touchent énormément, voilà. Et parce que je me souviens de lui d'une certaine façon, et que voilà quoi, c'est son univers, c'est sa façon de voir les choses. C'est sa clarté d'esprit. Il ne faut pas oublier qu'il était superment intelligent. Voilà.
Alors, dans les filmographies, on en a parlé un peu au début, c'est assez impressionnant, quand on n'a pas tout évoqué. Alors, je ne vais pas vous demander de passer en revue, parce que je pense qu'on serait là encore pendant quelques heures, voire quelques jours. Mais j'allais dire, avec le recul, qu'est-ce qui vous reste? J'imagine qu'il y a des rencontres qui vous ont quand même plus marqué humainement, d'une certaine manière, qui ont dû vous marquer plus que d'autres. Je ne sais pas, que ce soit Fellini ou peut-être Dassin ou autre. Non, est-ce qu'il y a comme ça des choses qui vraiment restent en vous plus que d'autres?
Moi, Fellini, c'est sûr, parce que Fellini, c'était vraiment un ami, et Giulietta, sa femme aussi, comme Boris et sa femme Ursula, parce qu'il a épousé une merveilleuse femme, Ursula, qui était une très grande danseuse et qui est vraiment, moi je l'ai connue à cette époque, enfin non, je l'ai connue avant, mais j'ai connu aussi Ursula, que j'aime beaucoup, puis je crois qu'elle m'aime beaucoup aussi. Et bien Fellini, c'est pareil, Fellini et Giulietta Masina, c'était vraiment des amis, et quand on allait à Rome, on allait chez eux avec mon mari, on descendait, on était avec eux chez eux, et ce sont des gens qui me manquent énormément, parce que c'est comme l'univers, ben voilà, Vian et Fellini. Ils n'avaient pas du tout le même esprit, bien entendu. Pas du tout, c'était pas la même chose. Ils avaient chacun un monde à eux.
Qui était unique, parce qu'en fait...
Qui était voilà, unique. Ouais. Et Fellini aussi. Bon, ben moi, disons que j'aimais rentrer dans ces mondes-là, qui me sortaient du monde actuel, qui n'est pas toujours très marrant, il faut bien le dire. Hein?
Quand vous pensez à ces années, 5 ans, alors je sais pas, on ne va pas faire le cliché de c'était mieux avant, mais artistiquement, quand on repense, et en plus vous les avez vécues, parce que vous étiez partie de cette aventure, ça, Fellini ou Vian ou d'autres, est-ce qu'on y repense de manière un peu nostalgique, un peu comme un album photo? Quel regard vous portez aujourd'hui, en 2009, sur toutes ces années de création intense?
Oui, bah une grande richesse, un grand bonheur. Et quand j'y pense, je suis pas triste parce qu'ils nous ont tellement donné que ça reste imprimé dans mes veines. C'est vrai.
Alors, jouer, c'est quelque chose que vous continuez à faire, puisque je crois que vous êtes un projet sur lequel vous travaillez, qui va bientôt voir le jour. Pièce de Fuentes, de Carlos Fuentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Ah oui, alors, oui. Non, ça, c'est une pièce que j'aimerais jouer. Mais avant, je veux refaire Le Clan, qui est un spectacle que j'ai joué en Suisse et qui a tellement bien marché que j'ai dû faire des supplémentaires. Et ce clan, c'est... Imaginez-vous, Vian, Prévert et Queneau, qui s'entendaient remarquablement les trois, et j'ai appelé ça Le Clan. Alors il y a des textes, beaucoup de textes de Queneau, énormément de chansons de Vian et de Prévert, qui s'entendaient très bien. D'ailleurs, leur terrasse communiquait, ils se voyaient tout le temps. Et voilà, et ça, j'aimerais pouvoir le reprendre à Paris, ce spectacle. Alors, j'ai des touches à droite et à gauche, mais ça, ça va se faire. Et après ça... j'ai encore une pièce que je veux faire, mais je ne veux pas trop en parler parce que je ne veux pas qu'on me pique mon idée. Alors, ça sera ma dernière pièce, voilà. Et peut-être, pourquoi pas, parce que dans le clan, je chante hein, aussi. Je parle et je chante. Et vraiment, les gens étaient ravis. En ce moment, j'ai reçu des lettres de gens qui sont venus en Suisse me voir au Théâtre du Passage, là, chez Robert Bouvier. Et ils étaient vraiment tous très, très heureux. Donc, je crois que je peux encore rendre les gens heureux avec ces poètes et ces chanteurs et leur faire partager leur monde. Et pour moi, c'est une joie.
Et ça qui est impressionnant, c'est qu'on ne vous sent pas du tout blasé ou en repensant à Cézanne, en disant, bah, de toute façon, c'était démentiel, Fellini vient, je ne pourrais pas avoir mieux. Finalement, on vous sent toujours habité par une sorte de fougue, de verve, de transmission, de etc. Vous en parlez de manière presque fraîche et pas du tout genre triste de pages qui viendraient du passé, enfin qui seraient du passé.
Ah, mais non, parce qu'ils nous ont tellement apporté que enfin, moi personnellement, que moi je vis encore avec, hein, dans plein de choses. C'est drôle, ils ont tous les deux des fondations. Alors, il y a une fondation, ça faut que je vous le parle, la fondation Boris Vian, alors CND, et puis Nicole Berthold, j'ai dit leur nom parce qu'ils sont tellement merveilleux, et bien Ursula évidemment, qui continuent à entretenir cette chaleur. Ils sont formidables, ils organisent des concerts, ils organisent même des pièces de théâtre avec de Vian, parce qu'il a écrit certaines pièces de théâtre, Le Goûter des Généraux, etc., entre autres, qui étaient très drôles. Et La Bande à Bono, qui était une comédie musicale de Vian, hein, est formidable. Et puis, pour Fellini, c'est pareil, il y a une fondation Fellini. D'ailleurs, il me demande d'aller bientôt à Turin, à Torino, parce qu'ils vont faire une rue Fellini, et que bon, alors j'y vais, parce que je sais qu'on va encore en parler. Vous savez, ce sont des gens qui étaient tellement riches. Ça suintait de leurs oreilles, de leur nez, de leurs gestes, de partout. Moi, je vis avec eux, voilà. Je ne suis pas là à pleurer. Non, je ne suis pas le genre. Vous savez, j'ai pas voulu aller à l'enterrement de Fellini parce que j'avais vraiment beaucoup de chagrin. Alors là, quand j'ai du chagrin, c'est comme Boris. Hein. D'ailleurs, quand il est mort, je suis dans un coin, je pleure, puis je veux qu'on me foute la paix. Alors, et après, j'ai demandé à mon mari de m'emmener à Rimini. J'ai pas voulu aller à Rome. J'ai pas voulu. Et j'ai voulu aller à Rimini voir la tombe de Frédéric. Et puis, quand on est arrivé à Rimini, c'est drôle parce que c'était le même décor dans lequel je tournais à Margorde. Exactement. Et alors, je disais à mon mari, je dis, mais attends, tu vas voir plus loin, il y a le Fluvio, le cinéma, puis là, il y a le café, etc. C'était formidable pour moi de retrouver ça. Et puis d'aller, je me rappelle qu'un jour, Fellini, on avait été ensemble à Rimini, et il m'avait dit, tu vois, un jour, ben moi, j'ai ma tombe ici, de ma famille. Et puis, il y avait un chemin, puis là, c'est mon meilleur copain qui est enterré là. Ce qui fait que quand on sera tous les deux dans la tombe, notre tombe, il disait-il en rigolant, Fellini, c'est pour ça que je te raconte, eh bien, tu sais ce qu'on fera? On passera par le chemin, mais par en dessous, pour pouvoir aller jouer aux cartes la nuit, quand on sera tous les deux dans nos tombes. Non, il était vraiment merveilleux, merveilleux. Comme Boris, hein, comme Boris. Sur un autre monde, sur une autre façon d'être, mais deux personnages complètement... éblouissant, qui partait de tous les côtés. Voilà, ça clique, pas clac, ça clignotait de tous les côtés.
Est-ce que vous êtes, vous êtes très, très, très gloutonne de musique, de cinéma? Oui. Est-ce que, je ne sais pas, vous écoutez beaucoup, vous achetez des disques, vous écoutez la radio, vous allez au cinéma?
Vous savez, ma mère était musicienne. Alors moi, quand je rentrais, ma mère, mes 10 ans de violon, j'ai arrêté. Mais je veux dire, j'ai arrêté parce que je préférais faire la comédie, puis je ne pouvais pas faire l'un ou l'autre. Ou on fait bien, mais je vais vous dire un truc amusant. Évidemment, moi j'adore le violon, ma mère était violoniste, j'ai une passion pour le violon. Alors du Yehudi Menuhin, bien sûr, c'est mon dieu. Mais il y en a un, et vous allez rire, c'est Nigel Kennedy, qui pour moi est le Vian du violon. Voilà, c'est vrai ou pas? Quand il joue, c'est une merveille, mais... Ça pourrait être un Vian violoniste, avec juste ses musiques, avec ses notes, qui pourrait être, c'est drôle. Bon, alors moi, je suis bien sûr, j'aime les concerts, vous me posiez quoi comme question?
Non, c'est savoir justement s'il y avait des choses actuellement qui, en musique, en concert, en disque, en film, qui vous touchaient. Est-ce que
j'ai pas, en ce moment, je vais vous dire franchement, j'ai pas tellement le temps parce que je fais la promotion du disque qui est ressorti, donc j'ai... Toute la journée, je suis prise par des interviews, par des interrogations, par des... Voilà. Moi, je suis ravie, puisque je parle tout le temps de Boris, mais voilà, quoi. Ça viendra après. Après, je vais être beaucoup plus au calme. Là, je vais partir après à Turin, pour le Fellini, la rue de Fellini, et puis voir les gens de la fondation qui sont adorables. Mmh. Et voilà, mais je suis un peu tiraillée, vous voyez, à droite à gauche, mais c'est bon de parler des gens qu'on aime.
Mmh. Merci beaucoup, Maggie Linol.
Avec son ventre de fer et ses volants de laiton, ses tubes d'eau et de fièvre, elle courait sur ses rails comme la mort à la guerre, comme l'ombre dans les yeux. Il y a tant de travail, tant et tant de coups de vime, tant de peine et de douleur, tant de colère et d'arrêteur. Il y a tant d'années, tant de visions entassées, de volontés ramassées, de blessures et d'orgueil. Métal arraché au sol, martyrisé par la flamme, plié, tourmenté, crevé, tordu en forme de rêve. Il y a la sueur des âges, enfermée dans cette cage, 10 et 100 000 ans d'attente et de gaucherie vaincue. S'il restait un oiseau et une locomotive, et moi seule dans le désert, avec l'oiseau et le chose, et si l'on disait...
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.